Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir amis auditeurs, amis auditrices, il est 22h et quelques petites minutes et c'est l'heure de la causerie avec son super générique hyper moderne. Alors ce soir dans la causerie, nous avons dans l'équipe de la causerie en tout cas Clara la technique.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons Fab aussi.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Fab. Et nous avons pour invité ce soir pour nous parler, on vous dira après, nous avons donc avec nous Bastien Castres.
Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'on a déjà entendu sur les ondes de Radio Canu.
Évidemment, sur les ondes de la causerie plus précisément. Pardon, je redescends là, je suis tellement en speed, pardon. Alors, ok, on se reprend. Donc ce soir avec Bastien, on va causer des rues de Lyon. Alors, on a déjà causé de pas mal de numéros, hein, si on regarde un peu dans le passé. Et ce mois-ci, en tout cas aujourd'hui, c'est pour parler de la Révolution française à Lyon. Alors, avec un cadre un peu plus précis dans les dates.
Dans les dates, de bas, c'est la Révolution, donc c'est, le cadre c'est 1789-1799.
C'est ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter de plus, pardon?
Bah, tu te rappelais pas de la date de la Révolution française?
Si, je suis inculte, mais à ce point-là, pas. Ça va, je retiens quand même un petit peu.
Non, mais on connaît souvent le début, mais le plus difficile, c'est de poser une date de fin, si tant est qu'on puisse poser un...
C'est ça.
Ouais, dis-moi. Peut-être commencer par faire se présenter Bastien.
Oui.
Oui.
Raconte-nous un peu qui tu es,
qui tu es, qui je suis, d'où je viens. Je suis auteur de BD. Moi, je suis dessinateur de formation. Je suis passé par l'école Émile Cole, comme un certain nombre de mes camarades. Je suis passé à École Cité, qui était spécialisée en peinture murale. Et puis j'ai vadrouillé. Je me suis paumé complètement pendant un certain nombre d'années, ou plutôt je me suis cherché. Et puis depuis quelques années, voilà, je me suis lancé un peu. Avec détermination absolue dans la bande dessinée, parce que ce qui m'intéresse en priorité, c'est de raconter des histoires. Voilà, tout un tas de choses, et puis d'apprendre tout un tas de sujets, d'histoires. Donc de raconter avant tout, en partant du profil du dessinateur, et progressivement en basculant du côté de scénariste.
Scénariste.
Et quel âge as-tu ?
J'ai 32 ans.
Ah oui, quand même, parce que des années, je me suis perdu.
Genre, oui, je crois que t'avais 50 ans. Dans ma jeunesse, j'ai parcouru une longue épopée, n'est-ce pas ?
Et au Rue de Lyon, c'est le combienième numéro auquel tu participes ?
Alors là, c'est le quatrième numéro. C'est le premier que je fais entièrement, où je scénarise moi-même. Le premier était en décembre 2019 sur le bombardement du 26 mai 1944 avec Hélène Marie, l'autre en février 2022 avec Jean-Philippe Travard sur la rue Mercière, et l'avant-dernier c'était donc avec Damien Martinière sur René Leno en février 2023. J'ai fait un sans faute.
Bravo. et sans note, hein.
Sans note, hein.
Ah, oui.
Malaise. Sans réviser.
Il est jeune. Est-ce qu'on peut quand même, alors même si peut-être que les auditeurs et auditrices habitués à vous entendre, en tout cas les rues de Lyon, etc., connaissent sûrement les rues de Lyon, mais on peut toujours espérer que des nouvelles oreilles nous écoutent ce soir, peut-être rappeler un petit peu le principe des rues de Lyon.
Alors, Les Rues de Lyon, c'est un journal, un mensuel, qui a été créé par l'Épicerie Séquentielle, qui est une association d'auteurs et d'autrices de bandes dessinées lyonnais. Le principe, c'était de créer un mensuel de bandes dessinées qui soit déjà un système d'auto-édition local, qui non seulement donc local, qui parle aux gens, qui parle de la ville, donc qui parle de Lyon, et puis qui permettent à tout un tas d'auteurs de se retrouver. Donc il y a un numéro qui sort tous les mois, et le principe de financement de base, c'était qu'un numéro coûte 3 euros. Sur ces 3 euros, il y a 1 euro qui va aux frais de fonctionnement de l'épicerie, 1 euro qui va au libraire ou à celui qui vend, et 1 euro qui va aux auteurs, ce qui fait du coup un tiers des ventes par numéro. Et ce qui était l'idée de base, c'était d'essayer de toucher un petit peu plus que dans l'édition normale où c'est plutôt autour de 8%. Donc pour chaque numéro que vous allez acheter sur celui-là, je touche 1 euro sur les 3, ce qui est la première fois, parce qu'avant je touchais 50 centimes quand on était deux. Donc allez vite l'acheter.
Je veux devenir riche,
financer mes vacances, ça arrive en plus dans peu de temps.
Et quand même, enfin, pour les auditeurs auditrices qui ont envie de s'abonner ou etc, n'hésitez pas. Donc,
ou de découvrir
évidemment aussi, oui, ça commence par là. C'est donc épiceriesequentielles.com. Vous pouvez vous balader sur le site, vous pouvez commander des anciens numéros, etc.
Voilà. Et puis
etc.
Vous pouvez vous abonner. C'est au prix de. Donc c'est 30. Je me rappelle jamais, 34 euros. Je m'en rappelle plus. En tout cas, c'est le prix des 12 numéros annuels, 36 euros, voilà. Et puis vous les recevez directement dans votre boîte aux lettres tous les mois.
Tout à fait. Eh ben, alors,
si, quand même dire aussi que ça se trouve, pour les Lyonnais, en librairie.
Oui.
Et
oui,
notamment chez les libraires indépendants. Oui. C'est bien de faire vivre.
On est chez à peu près tous les libraires, y compris, de Citre, par exemple. Mais en tout cas, allez plutôt chez vos libraires de quartier, on y est.
Et pareil, général, sur le site, on retrouve normalement tous les points,
les points de vente
dans lesquels vous pouvez retrouver évidemment Les Rues de Lyon. Bon, on a fait assez de retard pour Les Rues de Lyon, hein, c'est bien.
C'est super. Bon, maintenant c'est l'heure de la révolution.
Maintenant c'est ton heure à toi. Déjà, en fait, première question, c'est comment toi, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire un numéro sur la Révolution française à Lyon?
Alors, comment faire court? Alors,
t'es pas obligé non plus de faire en deux secondes. Hein.
C'est un sujet. Moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire. Et pour tout un tas de raisons, en fait, la Révolution, c'est un peu la convergence de tout un tas de choses auxquelles je me suis intéressé. Donc, il y a l'histoire, il y a la politique, il y a comment la société fonctionne. Et en fait, la Révolution, regroupe absolument tout. En un événement qui est un événement absolument fondateur, évidemment, de l'histoire de France, mais surtout du monde dans lequel on vit. C'est le moment où la République a été fondée. Et en fait, ce que je ne savais pas en rentrant dans la période, moi, c'est même que... Donc, ça s'appelle la Révolution française, mais uniquement parce que ça s'est passé en France. Mais en fait, parce que ça a une déflagration absolument planétaire et partout, tout le monde se réfère à ça. C'est-à-dire que c'est le premier moment où... c'était pas la première révolution qui existait, mais c'était, par exemple, il y a eu la révolution britannique avant, ou même la révolution américaine, mais c'était systématiquement des révolutions locales. Et en fait, une des particularités de la révolution française, c'est que dès qu'elle commence, en fait, elle est universelle, elle s'adresse à tout le monde, notamment avec la déclaration des droits de l'homme, article 1er, tous les hommes, malheureusement que les hommes à ce moment-là, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et donc, à partir de moment-là, le programme était lancé et il était inévitable que les choses allaient dégénérer sévèrement.
Pardon, mais parce que enfin là, on parle d'un numéro qui recouvre, on va dire, 10 ans. Si on t'a bien écouté au début, tu parles d'une BD qui fait 12 pages.
10 même.
10.
Les planches.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui,
du coup, il y a la couverture. Oui. Quatrième. Donc c'est encore pire.
Donc 10 ans, 10 pages. Ça c'est un sacré défi quand même.
On y va un peu comme on saute à l'élastique sans élastique. c'est en fait, j'ai longtemps tergiversé parce que, donc, à partir du moment où je savais que le sujet m'intéressait, je voulais l'aborder. Le sujet emblématique, quand on est à Lyon de la Révolution, c'est l'année 1793, on y reviendra. Et donc je me disais, bon, je savais pas, au début je disais c'est impossible, une décennie complète, en plus la Révolution, c'est impossible. Et puis quelqu'un m'a dit à l'épicerie, Olivier Jouvray pour ne pas le nommer, me dit, mais arrête de t'emmerder, t'as qu'à faire, tu fais une période, tu fais un numéro général et comme ça on aura un aperçu. Voilà. Et puis en fait je pense que c'était le déclic dont j'avais besoin. Et puis j'ai dit, bon, bah j'y vais. Et en fait, finalement ça m'a pas semblé si compliqué que ça. à partir du moment où on comprend, voilà, ce qui est bien compris s'énonce clairement. Et du coup, bah, je me suis tellement passionné, j'ai tellement lu, et puis avec l'aide notamment de Paul Choplin, qui est historien, qui m'a aidé aussi à apporter une structure finale, notamment aux événements lyonnais, m'a bien permis de comprendre, voilà. Et bon, bah, quand on doit rentrer, on a un format. Si on a le cadre, eh ben, on se débrouille pour rentrer dedans, et puis ça finit par marcher.
Et du coup, parce que bon, alors. Il y a le cliché de la Révolution française qu'on apprend à l'école, que ça nous ennuie tous parce que on nous fait apprendre des litanies de noms. Et on dit il y avait machin, truc, bidule, et puis c'était telle date, telle date, telle date. Voilà.
J'avais pas retenu truc, machin, bidule.
Moi, j'avais pas envie d'en citer.
Ah, ok, d'accord.
Il y avait Danton, Robespierre, Marat, voilà, si vous voulez. Et en fait, on a l'impression qu'on la connaît, la Révolution française, ou même qu'on l'a un peu rabâchée. Et toi, quand t'as commencé à t'intéresser au sujet, parce que j'ai beaucoup lu. Donc du coup, bah, on suppose que tu as creusé un peu le sujet. Est-ce qu'on la connaît si bien que ça, finalement ?
Pas du tout. Et en fait, le peu qu'on croit connaître, en fait, on ne connaît pas du tout. C'est vrai que c'est assez stupéfiant. J'avais écouté des historiens, tout un tas de personnes qui essayaient de donner des explications, et j'en avais retenu trois. L'une d'elles, c'est que c'est une période extrêmement dense, où il se passe énormément de choses. Où il se passe des fois en une année ce qui ne se passe pas en un siècle. Ensuite, il n'y a pas, entre la chute de Louis XVI, la chute de la monarchie et l'arrivée de Napoléon, enfin 99, il n'y a pas de figure qui incarne le pouvoir à elle toute seule. Ça n'existe pas. Et puis ensuite, il y a tout un tas de changements. Il y a trois ou quatre changements de régime, quatre, je crois, il y a trois changements d'assemblée. Et puis, quand vous avez, même au sein de l'assemblée, vous avez des changements d'orientation politique permanente. Enfin bon, c'est hyper complexe. Et du coup, c'est assez insaisissable. Et comme on aime bien simplifier les trucs avec les grands hommes, vous savez, à Bonaparte, c'est facile. Hein, du coup, les rois, au moins, c'est facile parce qu'ils incarnent le pouvoir, ouais, et ça, ouais. Tout dépend d'eux. Et là, du coup, bah, on rentre dedans. Et puis, bah, avec les images qu'on a, quoi. Donc, il faut les grands hommes. Donc, il y avait Robespierre, Méchant, Cacaboudin, Staline avant l'heure. Et je prends toujours cet exemple de Robespierre, qui est peut-être l'exemple archétypal, où en fait, on rentre dans le sujet avec tout l'imaginaire qu'on a, et on se rend compte que tous les historiens, donc spécialisés sur la période, ou plutôt de tous les historiens, il n'y en a aucun qui est d'accord avec la caricature qu'on a, et tous convergent sur au moins un sujet, c'est l'incarnation du bouc émissaire. Voilà. Il ne s'agit pas de faire de lui l'exact inverse de la caricature, hein, mais il s'agit de dire qu'en fait, il a servi de fusible.
Il a
payé pour l'ensemble. En fait, il fallait tourner la page de massacre épouvantable et d'un engrenage phénoménal de tuerie de masse. Et en fait, il fallait à un moment donné désigner un responsable au milieu de luttes de pouvoir où tous les affrontements politiques terminaient à la guillotine. Enfin, c'est une espèce d'engrenage infernal qui emmerdait tout le monde. Et donc, il est tombé. Et comme vous savez bien, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc, bah, lui, il a perdu. Voilà. Et donc, comme il a perdu, il a fait vraiment le fusible idéal. Et même les gens qui l'ont renversé ne pensaient pas à ce moment-là. Avant tout lui mettre comme ça, c'est juste c'est venu l'occasion de faire le larron, et on dit ah mais c'est parfait, il nous faut tourner la page de ces massacres, et donc là on a quelqu'un. Mais ce qui est fabuleux, c'est de se dire après comment le mythe s'est construit pendant autant de temps, et là c'est vraiment un truc à part entière, il y a des historiens qui bossent dessus et tout, et c'est fascinant quoi, à quel point ça sert de...
Ouais, surtout vont se croiser là-dedans le roman national, tout ça, enfin ouais. Tout ce qui a été mis en place pour créer une espèce de France idyllique qui n'existe pas, concrètement, qui n'existe que dans la tête des gens qui l'ont créé. Et c'est vrai que oui, du coup ça rend le sujet d'autant plus intéressant, d'autant plus prégnant, et du coup toi, comme tu te dis, tiens on va en parler sur Lyon, c'est pas un peu frustrant quand on a commencé à lire beaucoup de se dire tiens on va refaire une focale plus sur la ville?
Eh ben ça aurait pu, et en fait il s'avère que Lyon a un rôle important pendant notamment pendant 93, et du coup en fait de parler de Lyon, bah déjà on était obligé, en parlant de Lyon on était obligé de parler de ce qui se passe dans tout le pays. C'était impossible de passer outre. Et puis en fait, il y a. Alors je sais pas si c'est le moment de parler de l'année 93, peut-être plus tard, mais il y a.
Oh, on va en parler après la musique.
En parler, ouais, parce que ça j'adore ça.
Mais plutôt, est-ce que toi, tu t'es pas senti frustré de parler de Lyon ?
Non, parce que du coup, elle s'inscrit tellement dans l'histoire nationale. Qu'en fait je me suis pas vraiment posé la question. J'ai pu parler un peu de tout, alors évidemment on est frustré de tout un tas de trucs, mais moi je suis surtout content d'abord d'avoir réussi à rentrer ça en 10 pages et que les gens comprennent, ceux qui sont autour de moi m'ont dit putain c'est vachement bien, j'ai compris, enfin je comprenais rien mais donc j'ai compris les grands ensembles, et puis ça fonctionne quoi.
Ouais. Et finalement aussi revenir à une échelle locale entre guillemets, hein, parce qu'on parle quand même de la deuxième plus grande ville D'époque, ouais. Lyon, importante, économique, etc. etc. Ouais. Mais en fait, on revient quand même aussi, justement, on ressort en fait de cette histoire simplifiée, généralisée et simplifiée. Et là, on revient dans quelque chose de. Ouais, on retrouve les luttes de pouvoir, les opinions différentes et opposées, les massacres, les. Enfin, c'est.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, en plus, ce qui se passe.
Ça redonne corps finalement à quelque chose qui a été simplifié, ou en tout cas, enfin, vous voyez. Pardon, je tape dans mon micro, qui a été, on va dire épuré un petit peu. Et là, je trouve qu'on retombe dans une complexité, dans toutes ces choses qui s'opposent, quoi.
Bah, puis en plus, ce qui se passe à Lyon, finalement, se passe partout. Hein. C'est à l'échelle. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que l'affrontement qui mène, parce que la fameuse année 93, c'est l'affrontement entre Lyon et Paris. Donc Paris, bah, centre du pouvoir. Et en fait, il se passe exactement le même schéma, mais inversé. C'est ça qu'est, en termes de groupe politique. Et donc, en fait, il se passe, voilà, pareil. Donc, les affrontements à l'échelle nationale pour les prises de pouvoir, etc., on les retrouve à l'échelle locale avec les municipalités. Et dans tout un tas de pays, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire que pendant qu'à l'Assemblée, ils sont en train d'essayer. Enfin, ils essaient même pas au début de foutre le roi dehors, ils essaient de faire avec. En fait, dans les différentes villes et les grandes villes de France, du royaume, en fait, la plupart du temps, les échevins, donc c'est-à-dire l'ancêtre du maire, ils sont foutus dehors. Et c'est le cas à Lyon, par exemple, et comme dans d'autres, hein, parce que ce qui incarne, du coup, la monarchie, l'ancien régime,
dehors.
Il y en a un. Ah, basta.
Et ben moi, je propose qu'on fasse déjà un petit tour du côté des musiques révolutionnaires.
Je croyais que t'allais dire de chez Swan.
Non, pas du tout.
Pardon.
Sans cesse se répète. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les lutins, tout réussira. Nos ennemis confluents restent là. Et nous allons chanter Alléluia. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Quand Boileau jadis du clergé parla, comme un prophète il a prédit cela. En chantant ma chansonnette, avec plaisir il on dira. Ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les lutins, tout réussira. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Pierrette et Margot chantent à la guinguette. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Réjouissons-nous, le bon temps viendra. Le peuple français jadis s'acquia. L'aristocrate dit mea culpa. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Le clergé regrette le bien qu'il a. Et c'est justice, la nation l'aura. Parle le prudent Lafayette. C'est fini, tout trouble s'apaisera. Ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les lutins, tout réussira. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Suivant la maxime de l'évangile. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Le législateur tout accomplira. Celui qui s'élève, on l'abaissera. Celui qui s'abaisse, on l'élèvera. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Le vrai catéchisme nous instruira. Et l'affreux fanatisme s'éteindra. Pour être à la loi docile. Et chaque Français s'exercera. Ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les mutins, tout réussira. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple en ce jour sans cesse répète. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Et dans 2000 ans, on s'en souviendra. Le despotisme expirera. La liberté triomphera. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Nous n'avons plus ni noble ni prêtre. Ah ça ira, ça ira, ça ira. L'égalité partout régnera. L'esclave autrichien le suivra. Ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Et leur infernal clique au diable s'envolera. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates on les pendra.
Et vous êtes de retour dans La Causerie au 102.2 sur RadioCanu.org. Et nous ne sommes pas en 1789, mais en tout cas, on en parle ce soir.
1790,
en l'occurrence. 10, même, pardon, je me trompais d'un an. Et donc, on a Bastien Castre avec nous ce soir pour parler du numéro des rues de Lyon consacré à la Révolution française à Lyon. Et du coup, bah, à ça ira. Eh ben alors, tu nous en parles un peu.
Eh ben oui, oui. En fait, ça fait partie des chants révolutionnaires. Quand je cherchais tout un tas d'infos, bah, je m'étais plongé évidemment dans les bouquins, et puis un jour j'entends un historien dire, on lui pose une question, qu'est-ce que vous conseillez pour se plonger dans la période? Puis lui, pour un biais effectivement auquel j'avais jamais pensé, il dit, écoutez les chants de l'époque, parce qu'évidemment ça chantait et ça dansait énormément, mais énormément, et du coup il y a tout un tas de chansons qui ont explosé pendant la période révolutionnaire. Et il y en a deux, trois célèbres, dont ceux qui ont été choisis là. Et donc, Asaïra, je ne crois pas me tromper en disant que c'est le premier des plus célèbres qui arrive le 14 juillet 1790, c'est-à-dire le premier anniversaire de la prise de la Bastille, pour ce qu'on appelle la fête de la Fédération. Et en fait, c'est le moment où encore tout va bien. Il y a pas mal d'angoisse, de peur, il y a quand même eu des coups d'éclat assez importants, mais il y a un énorme espoir. À ce moment-là, la fête de la Fédération est un événement extraordinaire où on se dit, on construit une nouvelle nation, il y a une allégresse et un optimisme extrêmement fort, même si les gens sont quand même très inquiets, mais il y a beaucoup d'optimisme. Et à ce moment-là, il y a cette chanson populaire qui apparaît, sachant que toutes les chansons révolutionnaires qui apparaissent à cette époque-là sont reprises sur des airs de chansons déjà connues pour qu'elles viennent tout de suite. Donc ça irait au début très dans l'allégresse, l'optimisme, et en fait progressivement elle parcourt toute la Révolution, et les paroles évolue, il y a beaucoup de parodies, mais elle évolue pour devenir extrêmement menaçante et agressive envers l'aristocratie, et du coup ça devient un chant des sans-culottes, et quand la révolution devient violente, c'est vrai que ça accompagne les épisodes les plus violents, et ça devient beaucoup plus sombre, voilà.
Les fameux aristocrates à la lanterne.
Les fameux aristocrates, du coup, je pense que cette version est une des un peu plus éloignées que 90.
Ouais, c'est sûr.
Pardon, mais je me demandais si Darmanin il prendrait ça comme un chant séparatiste.
Ah clairement.
Communautaire. Voilà. C'était juste communautaire. Pardon, mais c'est.
Non, mais pensais, c'est marrant. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur la chanson, parce que sur le titre, parce que peu de gens la connaissent finalement. Souvent ils l'écoutent, ils connaissent Asaïra, et puis on s'arrête là. Et on oublie que c'est un chant quand même qui est effectivement orienté sur l'abolition des pouvoirs, y compris religieux à l'époque, et que ça montre, comme tu dis, le climat de l'époque entre la monarchie d'un côté, le clergé de l'autre, et cette espèce de pince qui tient le peuple entre ces l'image de la pince n'était pas bonne. Mais voilà, mais en tout cas voilà,
étau,
c'est ça que j'allais mettre, et qui tient le peuple en étau. Voilà. Il est bien, il fait même mes phrases. On va le réinviter. Et donc, du coup, quand même, pour cette fois-ci, arrêter de spoiler. Parce que tu disais, Lyon, spécificité de la ville par rapport à la Révolution française, une année assez cruciale qui, parce que la Révolution prend à Lyon comme ailleurs. Et puis arrive une année un peu compliquée où certains avaient même envie de raser la ville.
Oui, accessoirement. En fait, effectivement, pour faire une parenthèse sur le début, Lyon rentre assez facilement dans la Révolution, parce qu'une de ses caractéristiques qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, et beaucoup moins à Paris, c'est que comme c'est une ville qui s'est construite notamment sur l'industrie de la soie, c'est une ville marchande avant tout. Et donc il n'y a pas de noblesse, de grande noblesse, de grande famille héréditaire, et en fait l'idéologie marchande s'est imprégnée un peu partout. Donc ce qu'il y a de noblesse de robe est imprégné de l'idéologie libérale, marchande, etc. Donc on est plutôt au début ouvert sur une révolution, en tout cas une ouverture des pouvoirs à ceux qui se sont construits, on va dire, par eux-mêmes, les marchands, quoi. Ouais. Et donc ça commence bien.
Je me permets juste, parce que je me dis qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément lyonnais. Alors, deux fleuves à Lyon, et ça vient de la Méditerranée et du Nord, et donc ville commerçante, extrêmement commerçante.
Oui.
Voilà. Non, mais pour imaginer pourquoi on dit ça, c'est parce que en fait tout converge ici, donc c'est pour ça.
C'est ça. Ouais. Voilà. Et puis il y a une activité bancaire qui est très florissante, qui a vraiment qui marche bien. Mais là, à cette époque-là, apparemment, c'est vraiment même encore devant, il me semble, l'activité bancaire. Il y a le commerce de la soie, quoi. Et donc ça commence plutôt bien. Et puis même si il y a les émeutes qui arrivent assez rapidement, puis ça dégage Humbert Colomès les chevins assez rapidement. Grosso modo. On va dire que ça va à peu près, en tout cas ça suit le même schéma qu'un peu partout, jusqu'à la fameuse année 93, qui est l'année des années, qui est l'incarnation de l'épique, parce que l'année 93, juste pour resituer rapidement, et je me demande même si donc on disait que la révolution c'est 1789-1799, je simplifie, parce qu'on est obligé de faire vite, le cœur du cœur c'est 1789-1795, et donc 89 c'est le Big Bang, où tout saute, etc. 90-91, c'est là où les choses se structurent, la contre-révolution, les apparitions de la démocratie, etc. Et à partir de l'année 92, au mois d'avril, la France est en guerre contre deux pays, l'Autriche et la Prusse, Et donc là, ça commence à s'envenimer. Et fin 92, on arrive à l'instauration de la République. C'est une année passionnante, mais pas le temps d'en parler. Et septembre 92, le 22 septembre 92, c'est la première République française. Et donc, pour bien avoir à l'esprit qu'on est donc en Europe, vous savez où est la France, mais elle est encerclée par des pays où ce ne sont que des monarchies et des empires. Mmh. D'accord ? Donc ça, c'est important de garder à l'esprit. Première République, en tout cas, de cette envergure. Et puis, on arrive à l'année 93, et on commence bien avec le 21 janvier, l'exécution du roi. Voilà. Donc là, c'est le franchissement de seuil. Et donc, à partir de février, il y a ce qu'on appelle la première grande coalition, où en gros, pour faire simple, il y a toute l'Europe qui envahit la France. Toutes les monarchies et les empires qui envahissent la France. Donc ça, c'est la première couche de la tension. La deuxième couche, c'est qu'à partir du mois de mars, il y a la fameuse insurrection vendéenne. Donc il y a tout l'Ouest vendéen qui entre en insurrection, qu'on va dire contre-révolutionnaire, et qui donc, c'est le début de la guerre civile épouvantable qui va avoir lieu. Et la troisième couche arrive à l'été, où du coup, les républicains dans ce contexte-là se déchirent en factions, et notamment en deux factions. Il y a les montagnards, pour parler des députés, qui sont donc la gauche, et les girondins qui sont la droite. Et c'est les tensions, comme vous pouvez l'imaginer, sont tellement violentes dans ce contexte-là qu'on finit par des coups de force un peu partout. Et puis on arrive au fin mai, début juin, où en gros, la gauche de l'Assemblée fait un coup de force contre la droite. Alors c'est pas trop les députés qui ont décidé, c'est qu'en fait il y a 80 000 parisiens qui arrivent, qui entourent la convention, qui c'est le nom de l'assemblée à ce moment là ils entourent la convention avec des canons et des fusils, et puis ils disent maintenant vous nous livrez immédiatement les députés qu'ils accusent d'être des traîtres ou livrés à l'ennemi, etc. Et donc il y a un coup de force de la gauche, et à partir de là vous avez je crois une soixantaine de départements qui font sécession avec le nouveau gouvernement, et dans ce qu'on appelle la révolte fédéraliste. Et dans cette révolte là il y a la ville de Lyon qui s'inscrit. Comme dans les grandes villes, il y a Marseille, il y a Toulon qui rentrent dans le même processus. Et c'est juste qu'en fait, c'est les républicains de droite, encore une fois pour faire simple, qui dirigent la ville de Lyon, qui rentrent en opposition avec l'Assemblée qui est de gauche. Le problème, c'est que du coup, il y a une insurrection à Paris qui donne le pouvoir à la gauche. Et en fait, au même moment, il y a une insurrection à Lyon qui fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qui vire la gauche pour mettre en place la droite. Et bref.
On va juste préciser quand même, parce qu'on parle gauche-droite, on se remet dans le contexte de 1789. Enfin, de la révolution.
Oui, oui, oui.
On n'est pas au gauche-droite d'aujourd'hui.
Je dis gauche-droite pour simplifier.
Oui, voilà, non, mais voilà. C'est juste.
C'est des courants vite fait. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu prudent sur les appellations.
Oui, mais je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont se dire il y avait déjà c'était pas dessiné comme aujourd'hui, c'est pas les mêmes contours.
Non, mais c'est là que ça commence.
Ça commence
par parenthèse. C'est la gauche et la droite, c'est se mettre en place.
Ça naît de ça, en fait.
Au moment de décider de qui est pour ou qui est contre le droit de veto accordé au roi.
Tout à fait.
Et donc ceux qui sont pour, se mettent à droite, comme d'habitude, puisque ceux qui sont contre se mettent à gauche. Et à partir de là, les députés commencent à prendre des habitudes de se placer dans l'hémicycle de cette manière-là. Et donc, du coup, pour revenir à l'année 93, donc au moment où Lyon, justement, va rentrer dans la tourmente, c'est que dans ce contexte absolument... où plus personne ne peut se parler, hein, on ne peut plus se parler... les deux insurrections en même temps qui donnent deux résultats opposés, et au début c'était pas dit que ça allait se finir mal, parce que immédiatement la municipalité girondine, donc plutôt de droite, dit tout de suite, envoie des courriers à la convention, il dit il y a pas de problème, on va respecter la loi, on n'est pas du tout opposé, et en fait se met en place une espèce d'enchaînement de tensions, de malentendus, d'incompréhensions et de désaccords de fond, ce qui fait que les deux camps se radicalisent sur leur position. Plus, il faut jamais oublier qu'on est dans un contexte de les tensions sont exacerbées, pas juste au niveau des guerres, mais il y a des émeutes de subsistance en permanence, parce que les gens crèvent de faim en permanence, donc on se demande sans arrêt comment ils vont bouffer. Il y a une hantise du complot permanent, donc il y a une paranoïa généralisée. Donc bref, on a un niveau de tension où là les gens sont accrochés au rideau, vous n'arrivez plus à les faire redescendre. Et on arrive progressivement du coup à une rupture totale, et la ville de Lyon est décrétée en rébellion par la convention, et donc la convention envoie l'armée pour reprendre la ville, et donc se met en place à partir de d'août un siège où en fait pendant deux mois la ville est pilonnée au canon, et elle est pilonnée au canon, elle est assiégée. Et à partir de... C'est le 9 octobre. Le 8 octobre, elle capitule. Le 9 octobre, les troupes, parisiennes, donc de l'armée révolutionnaire, entrent dans la ville. Et à partir de là, c'est le moment traumatique de Lyon. C'est-à-dire se met en place une répression, comme il s'en met en place partout. absolument épouvantable. Il y a donc, vous avez deux, ce qu'on appelle des envoyés en mission, qui en fait sont des députés de l'Assemblée, qui sont envoyés aux quatre coins du pays pour gérer et administrer ce qui s'y passe, les armées, les guerres, etc. Et donc, c'est un peu, ils ont un peu tout pouvoir. Et donc,
vous n'avez pas créé les préfets à l'époque.
C'est pas qu'on n'a pas encore créé les préfets, non. Okay. Mais on les accusait un peu de, pour les comparer à des proconsuls, quoi. C'est-à-dire, c'est bon, ils ont tous les pouvoirs. Et vous avez donc c'est Fouché et Claude Herbois. Fouché qui est le plus connu, qui a gagné à ce moment-là son surnom de mitrailleur de Lyon. Alors moi, j'avais une vision très négative de Fouché, mais Paul Chopelin, notamment, discutant avec lui, me disait c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que eux, en fait, ils arrivent. Et c'est pas pour les dédouaner, parce qu'ils ont signé tout un tas de décrets d'exécution épouvantables. Mais en fait, ce qui se passe, c'est d'abord, les tueries sont d'abord le résultat d'un règlement de compte entre Lyonnais. C'est-à-dire, les gens sont divisés en factions militantes séparées, s'entretuent. Et en fait, il y a un tel niveau de massacre et de règlement de compte qu'eux, ils arrivent et ils essaient d'encadrer. Voilà, d'encadrer le règlement de compte. En ayant l'expérience, faudrait y passer des heures, mais des massacres de septembre 92. Qui a amené la mise en place du tribunal révolutionnaire, parce qu'en fait les gens avaient l'impression que justice n'était pas faite et que en fait il y avait un complot royaliste où ils allaient se faire égorger dans leur lit. Et donc il y a eu, devant la vague de peur qui imprégnait tout le monde, les gens sont allés directement dans les prisons, surtout à Paris. Et ils ont égorgé ou buté sur place 1500 personnes. Et donc, les gens étaient, les députés surtout, étaient tétanisés, ils ne savaient pas quoi faire. Et à partir de là, ils se disent, bon, bah, c'est Danton, notamment, qui propose et qui dit, il faut, soyons terribles pour empêcher au peuple de l'être. Et là, c'est la même continuité, c'est-à-dire que, en fait, personne ne contrôle rien. Donc, les gens s'entretuent sur place. Et tu dis, bon, bah, on va essayer de cadrer ça, donc de montrer, d'être dur pour montrer que justice est faite, et de calmer des deux côtés. Enfin, bon, bref, toujours est-il qu'il y a quelque chose comme 1680 personnes, qui sont exécutées pendant 4 mois. Et donc, faut voir le niveau des exécutions, c'est-à-dire déjà le nombre, et puis ça veut dire que c'est réparti en deux groupes, pour faire ça. Vous en avez place des terreaux qui passent à la guillotine, et en même temps, vous en avez sur la plaine des Brotteaux, qui eux passent, sont fusillés, ou en tout cas commencent au début par être carrément exécutés à coups de canon. Voilà. Canon qui est chargé alternativement soit directement de boulets, soit de billes d'acier, de mitraille, ce qui est complètement inefficace, et du coup, ça les tue pas, ça les déchiquette, donc les soldats sont obligés de les achever. Enfin, c'est un massacre épouvantable.
C'est horrible, quoi.
Ah oui, c'est une horreur absolue. Oui. Et puis ils sont jetés après, alors soit dans les fosses communes, soit directement dans le Rhône. Enfin bon, c'est lunaire, quoi. Et du coup, c'est ça qui crée un traumatisme épouvantable qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et puis qui a réutilisé de manière caricaturale. Voilà, bon, bah, c'est normal, un traumatisme pareil. Et du coup, ce traumatisme-là est la continuité, ces répressions sont la continuité de la guerre totale qui a lieu pendant l'été. Parce que du coup, j'avais fait l'introduction. Et juste pour finir là-dessus, c'est vrai que donc, tous ces conflits mènent à la guerre totale pendant l'été. Ce qui est fou, c'est que les armées révolutionnaires arrivent à gagner progressivement. Donc, ils repoussent les dangers urgents d'invasion, de guerre civile, etc., progressivement. Et à l'automne, comme ces dangers urgents sont repoussés, se mettent en place les répressions partout. Hein. Donc ce qui se passe à Lyon, vous avez des trucs en Vendée, les plus connus, hein. Vous avez le général Turgot qui crée les colonnes incendiaires ou les colonnes infernales, où en fait il prend des militaires, puis il marche et il brûle et il tue tout. Hein. Tout ce qui vibre, bouge, voilà.
La terreur.
Donc voilà.
Dans le mot du terme, quoi.
Voilà, on pourrait faire encore une
parenthèse. Instaurer la terreur.
Ouais. C'est ça, d'ailleurs le terme lui-même vient de loin, mais c'est l'idée, effectivement, il faut terroriser les personnes pour... Que ça leur fout de la trouille, recommencer, quoi. Et donc il y a des massacres partout à l'automne, et en fait c'est là où l'engrenage infernal est pris, et où de partout viennent les témoignages des massacres qui sont faits. Et c'est vrai que vous avez des députés qui font un peu n'importe quoi, parce que celui qui est Carrier, qui est effectivement en Vendée à Nantes, il fait n'importe quoi, il noie les curés dans la Loire, enfin c'est des trucs de fou. Et vous avez notamment à ce moment-là à Paris les groupements politiques qui sont dans la fameuse lutte de factions, où en fait le gouvernement révolutionnaire qui essaie de se stabiliser est pris à sa gauche, donc par l'extrême gauche, par notamment des gens qu'on appelle les enragés, qui sont à un niveau tel que, notamment avec Hébert et les Hébertistes, qui veulent, ils veulent décapiter à peu près tout ce qui ressemble, à commencer par un commerçant et tout ce qui est au-dessus. Donc ils sont complètement, enfin ça va trop. Et puis de l'autre côté, vous avez les indulgents, avec Danton, Camille Desmoulins, etc., qui disent, bah, là il faut ralentir, ça va trop loin. Le problème, c'est que dans cette dynamique-là, bah, vont rentrer les aristocrates, les monarchistes, ceux qui veulent. Voilà. Donc en fait, c'est un bordel monstre. Et en fait, pour se stabiliser, bah, ça guillotine à court de bras. Donc ils éliminent les factions, machin, etc. Et dans un contexte de règlement de compte généralisé, qui fait qu'au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut tourner la page, et le dernier retournement politique se fait avec la chute de Robespierre, où Robespierre et ses amis rappellent, en découvrant ce qui se passe partout dans les massacres, qui rappellent les responsables, les députés, les Fouché, etc., et qui savent qu'ils, du coup, vont être mis en accusation et envoyés à la guillotine. Et donc, eux, à ce moment-là, sachant ça, eh ben, organisent le complot qui fout Robespierre et ses amis.
Ils n'avaient pas envie d'être raccourcis.
Voilà, voilà. Ils ont été plus malins. Robespierre, bon, il est plus en forme à ce moment-là parce qu'ils sont épuisés, mais voilà, ils commettent des erreurs stratégiques, à mon sens. Et bref, toujours est-il que, du coup, Robespierre sert de fusible encore une fois, et là on dit ok, on peut tourner la page. Et dès le lendemain de son exécution, je crois que c'est Barrière qui, ou je sais plus, qui monte à la tribune et puis qui dit voilà, nous avons éliminé le tyran, et je sais plus si c'est dès le lendemain ou le mois suivant où ils mettent en place le terme de système de terreur. On a, et là d'un coup on identifie, on a le tyran et le système de terreur, et hop, tout est expliqué en un tournement, et comme ça ils se dédouanent entièrement tous de toute leur responsabilité et on passe à autre chose.
Bah, c'est souvent comme ça.
C'est ce que je voulais dire, en fait.
On trouve un bouc émissaire quelque part, et voilà. Même si après, juste quand même, pour bien que les, parce qu'on est parti loin.
Oui, il faut pas hésiter. Là,
non, mais il y a pas de souci. Ben, on est là pour ça.
Ah, oui.
Attends, il faut quand même conserver quelque chose dans l'émission, sinon on te laisse le micro.
C'est possible.
Non, en fait, l'idée, c'est juste pour que on comprenne, quand je disais la ville a failli être rasée, c'est parce que.
Ah oui, j'ai une
idée. Voilà, mais c'est, voilà, j'y reviens.
Je me suis laissé emporter.
Non, non, mais il n'y a pas de souci. C'est que à ce moment-là, en fait, dans ce système, effectivement, de faire peur, de terroriser la population, il y a cette idée qui émerge de se dire, bah, comme Lyon n'a pas été très gentil, on va raser la ville.
Le terme exact, c'est. Donc il y a un décret. Et c'est Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus. Et donc c'est un décret de destruction totale, de raser la ville, qui est décrété. Alors, je ne me rappelle plus de la date, mais j'ai dû le marquer dans le numéro.
Le 12 octobre.
Et voilà, 12 octobre 1793.
Tout à fait.
Décret de destruction générale. Mais et toujours pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'idée de... Donc à ce moment-là, la République joue sa survie. Et puis il y a un niveau de haine qui est tel que vous pouvez... Il n'arrive plus, pour tout un tas de raisons, à voir les choses de manière autrement que manichéenne. Voilà. Donc il y a les gentils, il y a les méchants, et les ennemis. Quoi. Voilà. Et de même manière, ils n'arrivent pas à comprendre comment se met en place le soulèvement vendéen. Voilà. Pour eux, c'est juste une vague de pro-monarchistes, etc. Alors que c'est plus compliqué que ça. Mais bon, bref. Voilà. Et donc effectivement, la ville est décrétée d'être rasée entièrement, ce qui est un peu compliqué à appliquer. Ceux qui sont sur place se disent, bon, on va essayer de nuancer un peu quand même, parce que là, c'est radical.
Un peu costaud, la ville, quand même.
C'est un peu importante, en plus.
Il y a du monde.
C'est pas la peine. Hein, on va pas s'énerver non plus, jusqu'à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que, de manière symbolique, sont détruits juste les immeubles qui encadrent la place Bellecour, qui sont des immeubles néoclassiques qui représentent bien l'aristocratie. Voilà. Mais évidemment, le décret n'est pas appliqué, parce que, bon, bah, il y a des limites, quoi. Mais en tout cas, ça représente bien le niveau
l'état d'esprit,
de,
quoi,
l'état avait. D'esprit général, ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un niveau de panique générale, mélangé à la haine, à la peur, à tout ce que vous voulez, qui en arrive à des décrets de ce genre-là, quoi.
Et justement, toutes ces luttes et ces guerres de camps, de d'opposition, ces massacres, enfin pareil, je trouve qu'il y a une mise en image, enfin oui, les
sublime.
Auditeurs,
ou
les...
oui, alors regardez là, la
les auditeurs regardez ne bien. Voient pas, mais je l'ai devant moi, mais effectivement, mais enfin on enfin, tu as travaillé sur les couleurs, enfin vraiment,
ah oui.
C'est sanguinolent, enfin, c'est, on sent le climat absolument horrible. Pardon.
Non, mais finis tes phrases, tu sais, je fais juste.
Oui, non, mais c'est non, mais.
J'ai juste dire, en fait, ce qu'on peut faire, c'est une petite coupure et on revient là-dessus.
Allez, on fait ça.
Très bonne
tu
transition.
Gères trop bien, toi.
C'est un métier.
Madame Veto avait promis De faire égorger tout Paris mais sans coup à manquer grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis D'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul. Mais sans quoi manquer, elle a le nez cassé. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Amis, restons toujours unis. Ne craignons pas nos ennemis. Ne craignons pas nos ennemis. Si eux viennent nous attaquer, nous les ferons sauter. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Oui, nous nous souviendrons toujours. Oui, nous nous souviendrons. Des sans-culottes, des faubourgs. Des sans-culottes, des faubourgs. À leur santé buvant, vive ces francs-lurants. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org et vous aurez cette chanson dans la tête, la Carmagnole, pendant environ une semaine. Donc on est content de vous la voir repasser ce soir. Vive le son du canon. Alors tu te montrais juste avant que le canon c'était pas toujours terrible, mais que ça a servi à plein de choses.
Ah, ça marche pas mal pour la révolution canon.
Voilà, c'est ça. Mais alors du coup, tu nous parles un peu de la Carmagnole ou pas?
Oui, très vite fait. En fait, la Carmagnole, c'est un autre des chants extrêmement célèbre et populaire déjà à cette époque-là. C'est un chant et une danse en même temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une danse qui se fait à tout un tas de festivités. Ce chant-là, cette danse-là, apparaît à l'occasion de la chute de la monarchie, le 10 août 1792. Voilà, c'est le moment où, la fameuse prise des Tuileries, où les Parisiens vont... on est en 92, la France est envahie par l'Autriche et la Prusse depuis avril. Et en fait, il y a une montée en tension qui serait... passionnante à expliquer, mais on n'a pas le temps. Et toujours est-il que le niveau de tension est maximal et on arrive où en fait les armées républicaines qui sont pas encore républicaines, les armées françaises sont décimées à ce moment-là. Et ça se passe mal. L'Autriche rentre comme dans du beurre. Et donc à un moment donné, les Parisiens vont à l'assaut des Tuileries en se disant mais le roi est complice de l'ennemi. Parce qu'on voit en fait tous les... entre monarchie, en plus ils sont tous cousins, frères, machin, truc, etc. Donc le roi est accusé d'être vendu à l'ennemi, ce qui n'est pas entièrement faux. Et donc ils disent, faut le dégager, ça suffit. Et donc ils y vont, et ce chant apparaît à ce moment-là. C'est pour ça que ça commence par Madame Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis, qui correspond à Marie-Antoinette et Louis XVI, à propos du veto, notamment du roi. Voilà.
Merci. Et rappelons que c'est surtout des femmes qui sont allées chercher le roi en 1780.
En octobre 89.
En
octobre 89. C'est très intéressant. J'ai entendu dire certains qui trouvaient que c'était là que commençait vraiment la révolution. Parce qu'en fait, jusque-là, on s'en prenait à ces symboles royaux, la Bastille, etc.
Non, on s'en prend à personne.
Et là, en fait, les femmes se disent vous êtes très gentils, les hommes, c'est bien, c'est très bien, vous faites vos grands discours, la déclaration des droits, les assemblées, tout ça, c'est très bien, vachement bien. Mais. On crève toujours de faim. Donc, on va y aller nous-mêmes, et puis, puisqu'il n'y a pas moins, on va arrêter de faire des heures et des journées de queue dans les boulangeries, on va aller le chercher. Et donc, c'est la première fois où elles vont chercher le roi, mais c'est pas juste qu'elles vont chercher, c'est qu'elles le ramènent de Versailles à Paris, et avec toute la famille royale et l'assemblée qui suit. Et donc, à partir de là, c'est vraiment le moment où le cœur du pouvoir se retrouve au milieu de la ville la plus politisée de France et la plus volcanique de France. Voilà. Et donc, c'est vraiment là que tout commence. Quoi.
Ah ben voilà. Et après, ça donne la Carmagnole.
Donc, les femmes, faut pas rougir.
Ah non. Et donc, du coup, juste avant de faire cette petite coupure musicale, tu commençais à parler
tout
du
à fait.
Style.
Du
parce
style
que, parce et que la voix que vous avez entendue, c'est celle de Bastien Castres, qui est ici qui est toujours pour présenter Les Rues de Lyon, le numéro 110, qui parle de la Révolution à Lyon et pas que.
C'est ça.
La Révolution française, s'il vous plaît.
C'est bon ? Je peux y aller ?
Je l'ai fait exprès, j'avais trop envie de te recouper.
Et donc oui, avant cette coupure et que je m'englue dans un truc... je parlais justement de ces jeux de couleurs en fait, quand on parlait justement de cette période... Enfin de massacres, de règlements de comptes, enfin de gens qui sont guillotinés, exécutés. Enfin c'est un bain de sang. Et effectivement, enfin j'étais beaucoup sur ce rouge qui était très présent dans cette période-là parce que j'ai le numéro devant moi. Mais ce jeu de couleurs, en fait, il y a un jeu de couleurs tout au long de la BD qui permet justement aussi de s'y retrouver un peu au milieu de tous ces courants entre les montagnards, les Girondins, etc., etc.
Les royalistes.
Les royalistes aussi, oui, oui. C'est... Ça, c'est pareil, c'est... Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu as envie d'en causer un petit
oui,
peu
oui,
ça,
c'est,
ça s'était venu comme ça. Est-ce que.
C'est, en fait, c'était. Alors, moi, je suis plus dessinateur, je suis même complètement dessinateur, et la couleur, ça me tétanise. Il y a trop d'informations à gérer en même temps, c'est le bordel. Et du coup, bon, à chaque fois que le moment arrive, je dis oh là 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 là, moi, j'aurais préféré que ça reste en noir et blanc. Et puis, il s'avère que je suis dans un formatable atelier qui s'appelle l'atelier Vermillon, dans lequel j'ai des conseils formidables de gens très expérimentés. Et parmi eux, bah, on me conseille. Dire bah écoute t'embête pas, tu fais une mise en couleur qui sert à la narration et qui sert à identifier les groupes politiques, voilà, ce à quoi j'avais déjà réfléchi. Et donc le code couleur qui est mis en place sert strictement à ça. Et en fait, ça m'a de me donner un cadre très précis, ça m'a complètement libéré dans ce cadre-là. Et donc, c'est pour ça que ça commence au début, donc avec du jaune, avec du bleu. Au début, bah, le jaune et le blanc sont là pour identifier les royalistes. Mmh. Et le bleu, c'est les premiers révolutionnaires, quand on est encore le moule vaste de on met tout le monde dedans. C'est-à-dire, c'est le tiers-état, quoi, c'est-à-dire 96% de la population. Et puis après, petit à petit, quand on avance, y a un peu de, on est toujours sur l'affrontement bleu et jaune, il y a un peu de rouge qui commence à arriver. Et puis progressivement, bah, effectivement, à mesure où les royalistes sont éjectés et disparaissent, disparaissent en partie parce qu'ils émigrent tous à l'étranger, et bah, en fait, l'affrontement devient vraiment entre républicains, entre la gauche, les rouges et les bleus. Et donc, simplement en matelant.
Qui sont des couleurs qui resteront dans l'histoire.
Qui resteront, voilà. effectivement, et qui, du coup, bah, en restant à ce code couleur-là, très précis, bah, ça fait. Sans que je l'ai prévu, une montée en puissance où effectivement, bah, pendant le siège, etc., on a des bleus saturés, des rouges saturés. Et c'est vrai qu'on parle souvent de sanguinolent, ce que je comprends tout à fait, parce que c'est des rouges avec des gens qui s'entretuent à tour de bras. Mais en fait, c'était pas prévu. Et du coup, bah, on arrive effectivement sur ces deux planches du siège et de la répression. Et finalement, je suis assez conscient de voir le résultat final où on sent le truc oppressif, ouais. Alors que c'était pas prévu du tout. Enfin, j'avais quand même bossé un peu, mais dans les teintes, j'avais pas réfléchi comme ça. Et ça retombe après. C'est-à-dire que bah, du coup, on planche neuf, effectivement, où on n'est plus que dans du rouge parce qu'on sait plus où on en est. Et puis d'ailleurs, pour l'anecdote, effectivement, la chute de Robespierre, bah, en fait, Robespierre est renversé par l'extrême gauche. Hein. C'est ça qui est intéressant. Donc bref, on n'est plus que dans du rouge. Et puis après, bah, on retombe sur un truc un peu grisâtre où en fait, on sait plus trop où on en est. Bleu-gris. Et là, les jaunes réapparaissent, machin.
Oui, parce qu'on va rappeler qu'après la Révolution, il y a eu Napoléon.
Ouais, voilà. Parce que quand c'est le bordel, voilà. Eh ben, ils font un retour à l'ordre.
Voilà.
Ce qui n'est pas aberrant en soi, parce que les gens ressortent lessivés. Hein, parce que là, on fait très vite, mais c'est vrai que c'est une décennie complète.
Ce qui est dommage, c'est que l'ordre soit incarné par un homme.
C'est malheureusement. Voilà. C'est celui qui promet de redresser l'économie et de faire rentrer tout le monde dans le rang. Parce qu'en fait, après la première moitié. En gros, la chute de Robespierre, c'est le moment où ça va continuer on va commencer à arrêter avec tous ces trucs, vous savez, de notamment de constitution progressiste, de démocratie,
ça va bien.
Machin, ça va. De toute façon, on voit bien ce que ça donne, hein, la guillotine, ça a toujours pareil, hein, les égalitaristes et autres. Donc, on va revenir sur des trucs de gens sérieux. Donc, on fout. Ce qui est intéressant, c'est que dans les mois qui suivent l'exécution de Robespierre, c'est qu'en fait, toutes les lois. J'allais dire de salut public, peut-être pas le bon terme, mais de social, d'avancée sociale phénoménale, sont supprimées les unes après les autres, sont remis en place la liberté de circulation des grains, hein, donc le fameux libre marché, la libre circulation des marchandises, alors que les gens crèvent de faim et que les prix augmentent. Et puis, notamment, l'ancêtre du blocage des prix à ce moment-là, puisque les prix flambent en permanence, ils disent bon, bah, on met ce qu'on appelle le maximum sur le prix du pain, ça augmente. Bah, tout ça saute. Et c'est intéressant de constater, mais du coup là ça revient sérieux, c'est-à-dire qu'on vient entre gens voilà, donc on fait tout sauter,
entre gens civilisés voilà,
voilà. Et puis en 95 on arrive, on instaure le fameux directoire, ce qui a été surnommé et caricaturé la république bourgeoise, qui est pas entièrement faux, mais il se passe plein de trucs. Et en fait tout le directoire de 95 à 99 va essayer de stabiliser, parce qu'il y a un besoin quand même de stabiliser, on peut pas forater les massacres et tout. Et en fait ils sont en permanence déstabilisés par on va dire, oui, les révolutionnaires d'un côté, et puis les monarchistes qui reviennent de plus en plus puissants. Et en fait, je crois qu'il y a 3 coups d'État sur les 5 années du directoire, donc c'est montré le niveau de stabilité du truc. Et puis ce qui fait que, bon, quand on arrive à 99, même les gens qui dirigent sont un peu plein d'eau, et du coup, il y a une espèce d'accord. Et donc, le coup d'État de Bonaparte, le fameux 18 Brumaire en fin 99, c'est plus une espèce d'accord entre bonnes gens. On se dit, bon, on se met d'accord, on passe à autre chose. Toi, t'as les soldats, tiens, viens, tu nous fais le coup d'État. Et d'ailleurs, au début, ils pensaient le manipuler. Toujours comme ça que ça se passe. Hein. Bah, c'est oui. Pareil avec Hitler, c'est pareil tout le temps. Oh, bon, on va le manipuler. Voilà. Bah, on a vu ce que ça a donné après.
Bah oui. Ça, on a pour le voir, on l'a vu.
Oui, et en même temps, pardon, mais je reviens là-dessus. Mais en fait, il y a des choses qu'on a l'impression qu'on parle même d'événements actuels. En fait.
Mais bien sûr.
Enfin, c'est vraiment.
Mais les rapports de pouvoir n'ont pas tellement changé.
C'est exactement ça, hein. En fait. C'est en fait le cœur du truc. En fait, on est là, quoi.
C'est pour ça que c'est passionnant. En fait.
Qui le tient? Qu'est-ce que ça représente, etc. Enfin, et vraiment, enfin, quand on en discute et quand on le lit, on se dit mais c'est bizarre. Ça ressemble à
des
trucs.
C'est pour ça que l'histoire est vraiment à la fois passionnante et puis moi, ça me fait du bien de me plonger dedans. Parce que d'abord, vous êtes éloigné du truc, donc vous dites, ok, oui. Émotionnellement, vous n'êtes plus dedans, oui. Ça s'est passé, c'est bon. Oui. Et puis ça donne un recul sur notre actualité, oui. Et puis ça tranquillise en se disant, ok, il y a eu des problèmes, il y a eu des machins, il y a eu des questions qui ont été soulevées, qui remontent à très longtemps. Moi, j'éclate de rire. Vous regardez le début de la Révolution, ce qui entraîne justement notamment les États généraux qui marquent le début du truc. C'est vous avez la mauvaise récolte épouvantable qui entraîne tout le reste, mais vous avez notamment une crise économique. L'État est endetté, écrasé par une dette qu'il n'arrive pas à rembourser, les caisses sont vides. Un des points de départ de la dépression économique, c'est qu'il y a un traité de libre-échange avec l'Angleterre qui détruit les marchandises.
C'est vraiment
donc c'est un truc de fou. Voilà.
En fait, c'est, on a l'impression que c'est un perpétuel recommencement, alors avec des époques différentes, des libertés différentes, etc. Mais en fait, vraiment, je trouve que on a tous les ingrédients de la politique même actuelle, quoi.
Et puis j'ai oublié la pépite supplémentaire de ceux qui veulent pas payer l'impôt.
Oui.
Hein. Ah ben ça, oui.
Et ça c'est génial parce que du coup au début, il y a les ministres des finances de Louis XVI se disent bon là il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et il y en a un, alors là je me rappelle plus, mais il y en a un qui met tout à plat l'état des finances, fait un gros bilan qui avait jamais été fait avant. Ils disent bon voilà l'état, et en fait la seule conséquence. Enfin, ils disent, écoutez, sire, il faut que tout le monde paye l'impôt. Alors, évidemment, tous les nobles sautent au plafond, ils disent, dégagez-moi celui-là. Donc, il est éjecté, en met un autre qui est hyper aristocrate, vous allez voir ce que vous allez voir, blablabla. Il fait son truc, 2-3 mois, et au bout de 2-3 mois, il revient devant le roi, il dit, bon, écoutez, sire, je vois qu'une solution, il faut que tout le monde paye l'impôt. Donc, lui, il est dégagé à son tour, etc.
C'est marrant, hein, déjà, à l'époque, quoi.
Et voilà, c'est ça.
C'est marrant. Justement, je reviens à cette couleur, etc. Mais justement, c'est intéressant aussi de se dire que justement, ce travail. Alors là, c'est un numéro que toi, tu as fait tout seul, etc. Mais que cette notion de collectif, les rues de Lyon, etc. Il y a quand même toujours un apport un peu, justement, ce que tu disais au départ, que les couleurs, les jeux de couleurs, ça t'intéresse. Enfin, pas que ça t'intéressait pas, mais tu avais pas
forcément. C'était pas ta cam.
C'était pas ta cam, etc. Donc c'est aussi intéressant, c'est de se dire, la notion de collectif, elle est aussi une richesse dans ces choses-là. C'est te donner, de te soumettre une idée.
Ah oui, d'accord.
Ouais, pardon, je suis pas clair.
J'attendais de voir, je dis oui, il va.
Oui, il va, il est long.
Je sais pas où il va, mais il va.
Oui,
À un moment donné, il va y arriver.
Je suis le mec le plus clair. Mais ce qui fait que oui, enfin, pardon, mais c'est. Cette notion de collectif et d'émulsion et d'entraide, il y a quelque chose que je trouve intéressant parce que finalement, ce qui n'était pas ton idée au départ, tu te l'es approprié.
Ouais,
et est-ce que c'est un truc finalement que tu vas garder toujours dans un coin de ta tête pour un prochain numéro ou autre, où tu vas dire, la couleur, elle peut aussi permettre de marquer ou d'aider à une lecture plus claire.
Mais c'était tout à fait pertinent parce que.
Merci.
Je répète sans arrêt maintenant depuis. Alors c'est plus le fait d'être, c'est pas pour dénigrer du coup évidemment l'épicerie, les collègues qui y sont, mais je les côtoie pas quand je travaille au jour le jour.
Oui, c'est ça.
Et moi, ce qui m'a vraiment permis de progresser de manière absolument vertigineuse en peu de temps. C'est depuis à peu près 2 ans et demi, je crois, que je suis dans cet atelier. C'est d'être sans arrêt. Tu soumets ton travail à des gens qui sont un peu dans le même milieu que toi, et il y en a un certain nombre qui sont beaucoup plus expérimentés que moi. Donc on a eu beaucoup plus affûté. Alors ça, c'est absolument formidable. Et comme moi, j'ai toujours été le dernier de la classe pendant longtemps. Donc alors j'ai plus d'ego, j'ai plus rien à meurtrir. Donc j'y vais. J'y vais mission suicide. Ah, qu'est-ce que tu penses? C'est de la merde. Oui, d'accord. Alors explique-moi pourquoi ça marche pas. Et puis à partir de là, bon an mal an, en fait, ça avance. Et par exemple, la couverture, typiquement. J'arrivais pas à trouver le bon angle. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, j'avais une idée de la Marianne, du truc. Je voulais la représentation de la République et tout, puis j'y arrivais pas. Et puis j'ai fait une proposition, puis une deuxième, puis bon, je montre autour, quoi. Et puis je voyais bien, ça convainquait personne. Puis on me dit, écoute, ça va pas. Parce qu'au début, il y avait deux faces, puis il y avait le tal monticule du peuple, etc. Puis elle y avait les yeux de face et tout. Puis ça marche pas, c'est un truc qui bloque un peu. Bon, bref. Et donc tout ça m'obligeait à me remettre au boulot en me disant, je vois bien, ça marche pas. Donc cherche autre chose. Et puis on m'a dit, paf, j'ai le déclic. Je me dis, si on a pivote sur le côté. Et là, poum, tout s'est enchaîné. Et donc ça, c'est ça sur un peu tout le temps. Et avec les couleurs, tu discutes. On te fait un petit conseil et il suffit que tu réfléchisses. Tu dis, j'avais pas vu ça comme ça. Donc non, moi, je suis extrêmement reconnaissant sans arrêt d'être dans cet atelier avec tous ces gens qui m'ont donné des conseils. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde, notamment aux plus jeunes qui sortent de l'école, de cool, etc. Je leur dis, si vous avez un truc à faire quand vous sortez de l'école, c'est immédiatement, vous vous mettez dans un collectif, et en l'occurrence, un atelier. Quoi. Il faut soumettre votre travail tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à des gens, surtout à des gens qui sont plus expérimentés que vous. Sinon, ça sert à rien. C'est un métier qui est trop concurrentiel et c'est trop difficile d'en vivre pour se permettre d'y aller tout seul, bien en tête. Quoi. Ce que j'ai fait pendant trop longtemps. Non, il faut soumettre votre travail, faites relire à tout le monde, même si vous n'osez pas, on s'en fout. Le seul objectif à avoir en tête, c'est de progresser, et c'est la vision de long terme. Voilà. Et moi, j'ai très 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 longtemps, je vous le dis franchement, là, je suis plutôt fier de ce travail. Je suis content de le présenter. Mmh. Ce qu'elle a probablement la première fois, j'avais déjà bien aimé le numéro précédent, mais j'ai, pendant l'essentiel de ma vie, j'ai jamais été fier de ce que je faisais. Je trouvais que c'était de la merde, je me disais, t'avoues rien, t'es nul, etc. Bon, bah, puis après, tu dis, ok, bon, je fais un truc absolument naze, alors on va essayer de viser long terme. Donc, puisque pour faire quelque chose de mieux, il faut faire, eh ben on va faire. Voilà. Et à force de faire, bah, je dis, ah putain, ah, c'est de moins en moins mauvais.
Voilà. Et si vous voulez voir la une dont on parle, justement, bah, n'hésitez pas, on l'a mis sur le blog si vous voulez voir. Et puis, évidemment, vous pouvez vous procurer Les Rues de Lyon pour avoir l'entièreté du récit, des dessins et de tout cela.
Voilà, achetez, parce qu'elle est souvent dans ma poche entièrement.
Oui, n'oubliez pas, si vous voulez enrichir Bastien, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut acheter.
Voilà. Et si vous en avez marre des flux financiers, eh bien vous pouvez le voler. Et donc,
non, ça c'est vrai, je vous retrouverai. Je vous ai dit.
Et ben on arrive vers la fin de cette émission quand même. Et alors du coup, déjà j'espère qu'on aura donné envie aux auditrices et auditeurs de se plonger dans ce numéro 110 des rues de Lyon et de son sujet. Oh, combien complexe qu'est la Révolution française.
Faudrait qu'on fasse une nuit entière.
Voilà, une nuit Révolution française. Mais moi, du coup, j'avais une question, c'est sur la suite. C'est que maintenant, tu as des envies.
Oui. Alors, j'en ai pas qu'une, du coup.
Bah voilà. Est-ce que tu as envie de parler de tes envies ou est-ce que tu es toujours à dire non, j'en parle pas parce que si j'en parle, ça se fera pas.
C'est vrai que c'est pas encore officiel et confirmé, donc on est prudent. Mais de toute façon, moi, vu l'enthousiasme que j'ai dans cette période et puis le boulot que j'y ai mis et que ça se sent. Je vais tirer le filon jusqu'au bout. Donc effectivement, il y en a d'autres dans les tuyaux et il y en a un très prochainement qui devra arriver. Et cette fois, c'est pas moi qui ferai l'illustration si tout se passe bien. Je cite pas de nom.
Non, reste vague.
Mais effectivement, qui devrait être sur l'année charnière si vous avez bien écouté l'émission. Vous savez laquelle c'est. Et au moins celle-là. Et puis probablement mettre un autre de Lyon, mais sur plutôt la Seconde Guerre mondiale et une personnalité féminine assez extraordinaire.
Voilà. Ok.
Donc à suivre dans l'année. Ou plus tard.
Eh bien, très bien. Et si les gens veulent suivre ton boulot à toi ou ce que tu peux créer, est-ce que les gens peuvent te retrouver sur, un réseau ou...
Là où je suis le plus actif, c'est Instagram. Okay. J'ai une page Facebook où je vais une ou deux fois par siècle, mais qui est plutôt à jour. Surtout Instagram. Et puis sinon, c'est le site internet. Donc, site internet, Instagram, c'est là où c'est le mieux.
T'as un site internet à toi.
Ouais, bastiencastre.com. Okay. Voilà. Ben, attaché.
Legas.com.
.com quoi.
T'aurais pu mettre .org, ça t'es encore
plus. .org. .gouv. Ah non, non.
Donc on a les infos pour suivre ton travail et tout ce que tu vas encore nous proposer.
Il n'y a pas encore une page de dons, mais vous pouvez toujours me.
T'as pas un Tipeee?
Non, je déconne. Non, pas encore.
Il y a plein d'auteurs qui font ça et je dénigre pas du tout. Parce que je trouve que c'est plutôt courageux des fois de dire là, j'y arrive plus.
Mais c'est vrai. Mais en général, ça marche quand t'es suivi déjà.
Oui, c'est ça. On est d'accord. Mais t'es au cas où.
Et on rappelle aussi, si vous voulez suivre l'épicerie séquentielle, les rues de Lyon, etc., c'est épiceriesequentielle.com, le site internet, et ils sont aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, etc.
Voilà,
etc.
Dans toutes les librairies.
Acheter,
c'est du local, c'est du bio, écolo, tout ce que vous voulez.
C'est du bio.
Non, et ça permet, encore une fois, là aussi, je le redis, mais tous les mois, on a le droit à une nouvelle patte.
Oui, c'est ça.
Et je trouve que c'est.
Oui, des auteurs différents.
Ouais, des auteurs différents, des dessins différents.
Parce qu'on est, je me rappelle jamais, moi, entre 60 et 70 inscrits là-dedans.
Et ce qui fait que c'est.
Et puis tout est local, hein, même l'imprimeur est. Je vais encore dire une bêtise, mais je sais plus si c'est Saint-Genis ou.
Pas loin, quoi.
En tout cas, dans le 69.
Il est dans les environs. Donc tout est vraiment local. Et le principe. Le principe de l'épicerie, c'est qu'on donne de son temps bénévolement et qu'en contrepartie, on peut produire un numéro et toucher les droits d'auteur dessus.
Voilà. Yes. Et quand tu dis donner son temps bénévolement, c'est aussi aller livrer les.
Notamment, aller livrer les librairies, son petit sac au dos.
C'est la notion de A à Z.
C'est, voilà, c'est local, c'est local. C'est, ouais, c'est 100%.
Alors, moi, je fais. Alors, attends, oui, je veux dire, est-ce que toi, t'avais quelque chose à rajouter, un merci, un coucou, un truc à passer?
Non, bah, moi, je dis bonjour à tout le monde. Okay. Merci de m'avoir écouté. Un petit coucou. Ah, si, à mes parents qui doivent m'écouter. Voilà.
Bah, et puis, très bien, bonjour.
Et puis voilà, puis à la tenue Vermillon, comme toujours.
Bonjour les parents.
Et puis aux copains de l'épicerie, quand même.
Oui, quand même. Et un petit peu teaser, mais justement, le dernier dessin, c'est un gars qui est sur son cheval. Avec sa main dans la chemise.
C'est prévu aussi, ça. Ça me titille.
Et ça, c'est une suite qu'on retrouvera. On continuera
chez vous.
Sur cette thématique. Ce sera le 24 mars où on causera des rues de Lyon, numéro 111.
T'as le nom, comme ça, tu peux l'annoncer.
Oui, avec Nicolas. Ouais, bien évidemment. Voilà, c'était juste.
Mais Nicolas, ce sera pas Napoléon. Hein.
J'étais ailleurs.
C'est la contre-révolution.
Tu mélanges.
Faut tout faire dans cette émission. C'est pas possible.
Hein. Il y a une place à prendre.
C'est bien la même période.
Envoyez vos candidatures.
Voilà. La causerie Canu.
La même période. Eh ben justement, si t'as envie de voir tes candidatures, c'est la causerie Canu.
Si tu as envie de me remplacer,
cherche un remplaçant. C'est lacausericanu@gmail.com, mais ça c'est valable si tu veux nous écrire aussi, si tu as envie de nous passer des infos ou des choses comme ça, ou si tu crées des trucs et tu dis tiens, j'aimerais bien la présenter, ou si voilà, enfin bref, tout ce qui se passe par la tête. Si tu veux retrouver cette émission, c'est sur les blogs de Radio Canu, alors c'est avec un S, donc c'est blogs avec un S, .radiocanu.org/lacauserie, où tu tapes lacauserie canu et normalement tu tombes sur nous. Si tout va bien, parce qu'il y a plein de gens qui utilisent le mot causerie, maintenant ça commence à m'agacer, mais c'est pas grave. Et du coup, on est aussi présent sur tous les agrégateurs de podcasts. J'ai appris que ça se disait comme ça. Alors non, je le dis comme ça. Donc ce sont les, en gros, tout là où tu trouves des podcasts, tu tapes la causerie Canu et normalement, on est là. Tous les numéros ou les 10 derniers, selon comment fonctionne le truc qui agrègue. Mais si tu veux tous les numéros, c'est sur le blog. Et sinon, on est aussi sur Facebook, mais c'est juste pour faire de la retape. Ne nous parle pas sur Facebook. En plus, ça va t'enlever poche de Mark Z, Zuckerberg. Et donc, du coup, ferme plutôt sur le blog, c'est plus sympa pour causer avec nous.
Et voilà. Merci à toutes celles et ceux qui partagent sans qu'on se connaisse.
C'est ça.
C'est la famille, les amis qui partagent majoritairement, mais quand on ne vous connaît pas, c'est encore plus encourageant.
C'est marrant de tomber sur notre émission par des gens qu'on ne connaît pas. Et surtout qu'elle n'est pas dénigrée, ça fait plaisir.
Merci, vous êtes rares. je crois qu'on s'est tout dit.
Ouais, sauf qu'un truc, c'est qu'on va partir avec le chant du départ.
Yes.
Ah oui, j'ai oublié
ça. Et donc, est-ce qu'avant de partir, Bastien, est-ce que tu veux nous parler vite fait du
chant du départ?
Pareil,
là, c'est formidable. Des fois, je l'écoute comme ça pour me remonter un peu le moral, et à la fois pour rire aussi. Le chant du départ, c'est un hymne, une espèce de chant guerrier qui a été célébré en première fois en juin 1794 à l'occasion des premières batailles, des victoires de l'armée républicaine et révolutionnaire contre les armées coalisées, je le répète, et toute l'Europe qu'il fallait repousser hors des frontières. Et donc à ce moment-là, c'est un chant qui a été qui est né pour renforcer la fibre patriotique et qui a été réutilisé, je crois avoir vu notamment jusque la Première Guerre mondiale pour encourager les soldats, etc. Donc voilà, ça c'est du grandiose.
Eh ben, très bien, merci à toi d'être venu.
Ben, merci à vous,
cette heure de causerie. Amis auditeurs, amis auditrices, on vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, évidemment, il y a plein de bonnes émissions sur l'antenne et aussi plein de bonnes musiques pendant les bandes continues. Et ben voilà, on a tout dit.
Ben oui. Alors, il y a aussi parfois des bonnes musiques pendant des émissions.
C'est pas faux.
Parce qu'il y en a, ils passent de la bonne musique.
C'est pas faux.
On en connaît.
Oui, c'est vrai. C'est parce que je fais pas d'émission musicale, donc.
On connaît qu'ils font ça.
C'est vrai. Le mec il dit tout le monde gratos. Ok. Et ben merci Bastien Castres donc d'être venu parler des rues de Lyon numéro 110 sur la révolution à Lyon, mais pas que. Et puis amis auditeurs, auditrices, à dimanche prochain. Portez-vous bien. Des bisous.
Ciao. Salut.
La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas, et du nord au midi, la trompette guerrière va sonner l'heure des combats.
Chambéry.